Les choses de la fin, telles qu'elles sont exposées dans la Bible, gravitent autour de cet événement capital pour la foi chrétienne, le retour du Christ. Qu'il reviendra, les Écritures l'attestent formellement. Jésus lui-même le promet solennellement à ses apôtres. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Aux disciples témoins de l'ascension, les anges déclarent, le Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Toutes les épîtres contenues dans le Nouveau Testament baignent dans cette bienheureuse espérance. L'apôtre Paul rappellera par exemple aux chrétiens de Corinthe et à tous les chrétiens à travers eux que lorsqu'ils mangent le pain et boivent la coupe en mémoire du corps et du sang du Christ, ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lorsqu'il reviendra, ce sera bien le Seigneur lui-même qui descendra du ciel, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. L'oreille percevra donc les signes précédant immédiatement ou accompagnant son retour. Jean précise même que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est là un détail particulièrement frappant. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Au moqueur qui raille, où est la promesse de son avènement? Pierre oppose la patience de Dieu qui ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il ajoute, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. À cet égard, la Bible parle souvent du dernier jour. Ainsi, Jésus lui-même dira, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ce jour-là sera aussi le jour de la résurrection. Lorsque devant la tombe de Lazare, Jésus dit à Marthe, « Ton frère ressuscitera », Marthe répond avec une certaine impatience, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Elle savait cela, car Jésus lui-même avait enseigné que l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Les Écritures semblent en effet affirmer que Jésus reviendra au dernier jour pour ressusciter les morts et exercer son jugement final sur les justes et les injustes. L'apôtre Paul rendra de ce fait un témoignage public. Nous avons en Dieu cette espérance, affirme-t-il, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Aux chrétiens de Thessalonique, persécutés pour l'Évangile, Paul rappelle qu'à son retour, le Seigneur exercera sa vengeance sur ceux qui les ont persécutés, lorsqu'il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Paul ajoute que ce jour-là, il viendra aussi pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. À ce point, nous pouvons déjà affirmer avec les Écritures que le Seigneur reviendra, car il l'a promis, que le jour de son retour sera le dernier jour, et que tous seront témoins de son avènement, même ceux qui l'ont percé. Ce jour-là, il ressuscitera les justes et les injustes. C'est à ce point que nous pouvons aborder la question du jugement dernier en ce jour dernier, en se référant à la description de cet événement tel que Jésus nous la donne lui-même. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Il faut dire que les chrétiens de Thessalonique nourrissaient de vives inquiétudes à l'égard de leur mort. Pour eux, le retour du Christ était un événement imminent. Certains avaient déjà abandonné travail, affaires et maisons pour mieux se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais les morts, ne seraient-ils pas frustrés de ce retour triomphal du Seigneur et de toutes les bénédictions qu'il apporterait? C'est précisément là le sujet de l'épître aux Thessaloniciens, rédigé par l'apôtre Paul. Nous les vivants, écrit-il, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et Paul ajoute, consolez-vous donc les uns les autres, par ces paroles. Parallèlement aux chrétiens de Corinthe, Paul dira, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Ici, l'apôtre Paul anticipe nos questions. Il écrit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Ce sont en effet des questions que tout croyant s'est posées. Paul y répond au moyen d'une admirable illustration. Le grain de blé que tu sèmes, dit-il, doit d'abord mourir avant de reprendre vie. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas ce qui naîtra. En effet, l'épi de blé a un aspect plus glorieux que le simple grain d'où il est sorti. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, conclut-il triomphalement. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Nous avons vu qu'au jour du Seigneur, la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera détruite. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Quels seront ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre? Certains ont imaginé que le plan de Dieu est de faire vivre les élus sur une terre renouvelée, dans un état voisin de l'Éden. Ils se basent sur certaines prophéties de l'Ancien Testament qui décrivent la restauration d'Israël en tant que peuple de Dieu et qui annoncent aussi le règne de justice sur la terre. En réalité, toutes ces prophéties annoncent surtout les bénédictions accompagnant la venue du Messie, qui n'était encore qu'une espérance. Elles décrivent ce dernier comme un roi conquérant et vengeur, qui s'installerait sur le trône de David pour régner et juger. Pour décrire cet âge d'or, les prophètes, selon leur habitude, ont employé un langage imagé, répondant aux aspirations surtout terriennes de leurs auditeurs. Ainsi, David devait revenir d'entre les morts pour reprendre ses fonctions de roi d'Israël. Ce serait un jour grand, annoncé par le prophète Élie en personne, qui lui aussi devait revenir quoique mort. Lorsque le Messie viendra, il rétablira la paix et la tranquillité. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau, etc. Il serait évidemment simpliste de prendre ces images au sens littéral. La révélation de Jésus-Christ nous a montré qu'en Christ, il n'y a pas de distinction de race. Les vrais fils d'Abraham sont ceux qui croient en Christ. Elle nous a montré que la prophétie du retour de David annonçait en réalité la venue du Messie. Que l'installation de ce dernier sur le trône de David n'était qu'une image prophétique décrivant en réalité sa résurrection glorieuse et son installation sur un trône céleste, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Enfin, nous voyons que l'avènement du Messie n'inaugure pas un quelconque retour à la paix, car il est notre paix. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre décrivent une nouvelle existence, de nouveaux horizons, dont le cadre est autre que cette terre, fût-elle rafraîchie. Écoutez plutôt les affirmations de l'apôtre Paul. À l'église de Corinthe d'abord, nous avons dans le ciel un édifice, une demeure éternelle. Aux Philippiens, il écrit, notre cité à nous est dans les cieux. De même, il parlera aux Colossiens de l'espérance qui leur est réservée dans les cieux. L'épître aux Hébreux nous montre clairement au chapitre 11 que l'espérance des patriarches n'était nullement en cette terre. Ils cherchaient une patrie, mais, et je cite, « s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » En conclusion, nous devons rappeler que les Écritures nous recommandent de veiller. puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra. Que Dieu nous aide à nous affectionner aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Qu'il nous accorde enfin la patience dans les épreuves inhérentes à tout engagement authentiquement chrétien, afin d'aimer de plus en plus le retour du Seigneur, plutôt que de le redouter.